Merci d'écouter RFI, il est 8h30 à Conakry, 2h de plus ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
L'article à l'origine.
Le voilà sans surprise réélu à la tête de l'Union des Forces Républicaines. Mais nous le verrons, la question de la candidature de Sidya Touré à l'élection présidentielle guinéenne est encore loin d'être réglée. Joseph Kabila poursuit ses consultations à Goma. Voilà bientôt une semaine que l'ancien chef de l'État est dans la ville de l'Est congolais aux mains du M23. Dans le même temps, des parlementaires européens étaient à Kinshasa. Et puis de Dakar à Moroni, l'impatience et le stress vont de pair pour les supporters du PSG. Le Paris Saint-Germain affronte ce soir l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Pas de surprise en Guinée, Sidya Touré a été reconduit à la présidence de l'Union des Forces Républicaines. Élection à la quasi-unanimité lors du congrès hier de l'UFR à Conakry. Sidya Touré est lui exilé en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. C'est donc de là qu'il a rendu hommage aux activistes Fonike Menge, Biloba et au journaliste Habib Marwan Camara, disparu depuis plusieurs mois. Il a par ailleurs appelé les autorités de transition à dialoguer avec la classe politique et ce pour apaiser les tensions. Il faut dire que ce congrès pourrait permettre à l'UFR de voir lever sa suspension décidée par le ministère de l'administration du territoire mi-mars. Mais la question de la candidature de Sidya Touré à l'élection présidentielle est encore loin d'être réglée. Correspondance de Tanguy Bian.
Le parti était suspendu depuis la mi-mars après l'évaluation menée par le ministère de l'administration du territoire. Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR, espère que ce congrès permettra au parti de reprendre ses activités politiques.
Conformément à ce qui nous a été dit, il avait été convenu que suite à cette organisation, la sanction serait levée. Nous sommes rassurés qu'ils lèveront parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'ils doivent faire.
Pour autant, la levée de la suspension du parti ne signifierait pas que la voie est dégagée pour la candidature de Sidya Touré à l'élection. L'avant-projet de constitution, présenté en juillet au CNT, comprenait une disposition limitant à 80 ans l'âge pour se présenter à la présidentielle. Et c'est précisément l'âge de Sidya Touré. On ne sait pas si cette disposition a été conservée dans le texte voté par le CNT en avril dernier, car il n'a pas été publié. En tout cas, Bakary Goyo Zoumanigui, fondateur du parti, s'oppose fermement à cette mesure.
La suite logique d'une transition politique, une transition après un coup d'État militaire, voudrait que toute élection qui va avoir lieu après soit inclusive, qu'on n'élimine personne. C'est le peuple qui choisit.
Lors de son allocution devant les militants, Sidya Touré n'a pas évoqué de possible retour en Guinée. Tanguy Bian, Conakry, RFI.
Ousmane Sonko est en Côte d'Ivoire, une visite de travail et d'amitié pour le Premier ministre sénégalais qui est donc arrivé hier à Abidjan. Ousmane Sonko s'est entretenu avec Alassane Ouattara après une séance de travail d'une heure et demie avec son homologue et une dizaine de ministres ivoiriens. Dans une déclaration, le chef du gouvernement sénégalais a notamment plaidé pour une meilleure coopération commerciale entre les deux pays. 60 djihadistes tués dans le nord-est du Nigeria. Voilà le bilan d'opérations aériennes et terrestres menées par l'armée nigériane qui a donc communiqué hier. Une figure clé du groupe Boko Haram a notamment été éliminée. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que les forces armées ont lancé 2 attaques distinctes contre des camps de Boko Haram et de sa faction rivale, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso maintenant, le ministre de la Défense s'en prend à RFI dans un article publié ce jeudi. La radio relatait le massacre commis par les volontaires pour la défense de la patrie dans les villages autour de Dori et de Gorgadji. Selon les termes du communiqué publié par le ministre de la Défense burkinabé, les faits rapportés ne seraient que des allégations graves et diffamatoires. Les détails avec Wely Diallo.
L'article à l'origine du communiqué relate le massacre commis par les VDP le 21 mai. Ce jour-là, plus d'une centaine de civils ont été tués entre Tafagou et Nobiol. De nombreux témoignages, images et vidéos authentifiées attribuent la responsabilité du massacre à un convoi de l'armée et des VDP. Des faits qui sont présentés par le ministre de la Défense burkinabé comme visant à déstabiliser le pays et à ternir l'image de l'armée et des VDP. Dans son communiqué, Célestin Sempore rappelle l'engagement inébranlable du gouvernement fortement à la protection des civils et au respect des droits humains. 10 jours à peine avant l'attaque rapportée par RFI, Human Rights Watch dénonçait les massacres ethniques perpétrés par l'armée burkinabé. Dans un communiqué, l'organisation détaille le massacre de plus de 130 civils Peul dans les environs de Solenzo. Dans son communiqué, le ministre burkinabé de la Défense invite les populations à rester prudents face aux informations qu'il qualifie de propagandistes et réaffirme la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme, sans pour autant préciser les avancées sur le terrain.
Une dizaine d'heures après la publication de ce communiqué, eh bien, il a donc été supprimé de la page Facebook du ministère de la Défense et de celle du service d'information du gouvernement qu'il avait relayé. Au Mali, ce sont les djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda qui mènent un blocus à Diafarabé, dans la région de Mpoti. Depuis lundi, plus aucun véhicule ne peut entrer dans la ville. Cette mesure imposée par les djihadistes est en représailles à l'exécution le 12 mai dernier d'une vingtaine de civils. Ils avaient été arrêtés sur le marché de Diafarabé sans armes avant d'être égorgés par des militaires maliens. À ce sujet, vous pouvez retrouver sur notre site le témoignage d'un habitant de Diafarabé. Les inégalités encore plus fortes au Rwanda. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains saluent tout de même un mieux. 1 500 000 Rwandais sont sortis de la pauvreté en 7 ans, mais un travailleur sur 4 vit toujours dans la précarité. Dans son rapport remis hier au gouvernement de Kigali, le rapporteur de l'ONU plaide pour la mise en place d'un salaire minimum dans le pays. Ils décrivent une catastrophe humanitaire et appellent l'exécutif congolais à faire taire les divergences avec l'opposition et ce, pour arriver à la paix. 11 députés européens ont achevé hier une visite diplomatique à Kinshasa en RDC, à l'occasion pour eux de rappeler le soutien du Parlement européen au peuple congolais et de pointer la responsabilité du Rwanda dans la crise actuelle dans l'est du pays. À Kinshasa, les détails avec Pauline Azidi.
La délégation a rencontré le président Tshisekedi, des parlementaires congolais, des représentants des églises mais aussi des membres de l'opposition avec un message: il faut travailler ensemble pour la paix. Les parlementaires se sont dit inquiets de la catastrophe humanitaire. Ils demandent des couloirs sécurisés, un pont aérien vers Goma pour répondre aux énormes besoins des populations, tout en pointant la responsabilité du voisin rwandais dans la crise. Hilde Wotsmans est la chef de délégation.
Nous condamnons fortement et sans réserve les actes violents du M23 soutenus par le Rwanda et nous dénonçons leurs tentatives persistantes de déstabilisation de la RDC. Le Rwanda doit se positionner d'urgence dans ce conflit et répondre à l'appel à cesser tout soutien aux acteurs déstabilisateurs dans la région. Nous réitérons notre appel à la suspension du protocole de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda et nous ferons tout dans notre mandat pour le garantir.
Et les parlementaires européens de reconnaître qu'il leur faut aller à l'est du pays pour réaliser toute la dimension de cette crise, peut-être cet automne. En attendant, ils promettent de travailler à une nouvelle résolution au Parlement européen. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Elle lui est arrivée dans l'est congolais dimanche dernier à Goma sous contrôle du M23. Joseph Kabila poursuit ses rencontres. L'ancien chef d'État congolais s'est entretenu hier avec les rois de 4 localités du pays. Un rêve plus que jamais accessible, le PSG affronte ce soir l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions sur le continent. Les supporters du Paris Saint-Germain vont se retrouver pour vivre ensemble ce match qui pourrait devenir historique. Une fan zone a même été déployée à Moroni, aux Comores. Abdellah Mzembaba nous détaille le dispositif prévu.
À Moroni, la place Mtsangani se prépare à vibrer ce soir. Une fan zone géante doit y être installée avec écran, sono et chaises. Le collectif des supporters du PSG a demandé que les voitures quittent les lieux avant 14h pour faciliter l'installation. Même le dress code est fixé, maillot du PSG obligatoire, évidemment, mais surtout, interdiction de porter celui de l'OM pour éviter tout débordement. L'opérateur téléphonique Yas Comore soutient l'événement sur le plan logistique. Dans les quartiers, on s'organise aussi avec les moyens du bord. À Halouja, au nord de Moroni, Jaez croit dur qu'on fera une victoire et mise sur un but de Désiré Doué, son joueur préféré. Son ami Mogalid, lui, n'a pas oublié la finale perdue en 2020. Il n'a aucune crainte. Avec Doué et Dembélé, assure-t-il, Paris a les armes pour gagner. gagner. Ce passionné projette les matchs gratuitement dehors, devant sa salle de jeu. Sa seule crainte, une coupure de courant. Sur les réseaux sociaux, les pics pleuvent entre fans parisiens et marseillais. Reste à savoir si Paris pourra ce soir écrire sa propre légende européenne. Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
À Moroni, où il est 11h, bientôt passé de 40 minutes, 10h40 ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Restez bien à l'écoute de la Radio Mondiale.